Partie 4. Monde nouveau. Nul ne peut être déplacé contre son gré. Article 4. Constitution mondiale du 29 mai 2058. Chapitre 43. Désert d'Aralkoum, Kazakhstan. Micha, tu as des nouvelles de Babou?
Aucune.
Merde! Le commandant Artem Akinis prit un instant de réflexion et fit signe à ses hommes d'avancer sans lui. Le commando fouillait systématiquement chaque vallée, flanc ou sommet des monts Mougodjar, au nord du désert d'Aralkoum. Les chances de retrouver les fugitifs étaient infimes, mais ils n'avaient pas d'autre solution que d'explorer l'immense territoire en se téléportant tous les 100 mètres, selon un quadrillage précis, à la recherche de n'importe quel indice avec la prudence d'une armée de libération en territoire occupé, bénéficiant toutefois de l'avantage de pouvoir disparaître au moindre coup fourré. Artem observa l'infinie étendue rase et sèche de la steppe qu'il venait de quitter. Les canyons désertiques s'ouvraient devant eux, comme autant de chemins possibles dans une montagne labyrinthique. Puis, il reprit la conversation téléphonique avec son adjointe. Il avait préféré ne pas se rendre au siège de Pangaïa et laisser seul Micha et la fille de Nemrod. Étrangement, il sentait qu'il devait respecter leur complicité. Il poursuivit d'un ton inquiet. « Ça fait presque une heure qu'il s'est téléporté à Kolmanskop, sans nous passer le moindre appel. Micha, tu le localises dans Pangaïa, je n'aime pas du tout ça. » La jeune Coréenne hésita à prononcer des mots rassurants. Babou était un flic solitaire, solitaire et expérimenté, il ne fallait pas paniquer. Sauf qu'elle pensait tout le contraire. Elle était tout aussi inquiète qu'Artem, inquiète comme jamais.
« Je m'y mets, tout de suite, avec Pangaïa. Ne t'en fais pas. »
Artem raccrocha. Micha se tourna vers Pangaïa, dissimulant difficilement sa nervosité.
« Babou, » prononça-t-elle en tremblant. « Lieutenant Babou Diop, localise-le, je t'en prie. »
Pangaïa agita ses doigts à la vitesse de l'éclair. Des chiffres défilèrent sur l'écran. Mon King, surpris par cette subite agitation, sauta de l'épaule de l'ingénieur et se retrouva à terre à quelques centimètres de Darn 4, qui siffla, dos hérissé, figé en position de karatéka. Les deux filles ne prêtèrent aucune attention aux deux animaux.
« Je l'ai, » fit Pangaïa. « Babou Diop, TPC 2048-1-29974. Coordonnées 26 degrés 42 minutes 0 secondes sud. 15 degrés 13 minutes 59 secondes est. Kolmanskop, désert du Namib. »
Micha poussa un soupir de soulagement. Babou était toujours en train de fouiller ce foutu village fantôme. Pourquoi ce vieil ermite n'avait-il pas appelé? Elle avait beau souvent se chamailler avec ce dinosaure incapable d'admettre que le monde avait changé, en mieux, il représentait pour elle une figure presque paternelle. Babou et Artem, les deux hommes de sa vie. L'un aurait pu être son père, l'autre son...
« Il y a un problème !» cria Pangaïa à côté d'elle.
« Quoi ?»«
Il ne bouge pas !»«
Comment ça, il ne bouge pas ?»«
Mais les données des TPC sont ultra précises. Je peux localiser un terrien au millimètre près si je veux. Quelqu'un qui porte un TPC bouge forcément, respire au moins, même s'il ne fait rien, même s'il dort. Le géoréférencement d'un TPC est capable de m'indiquer le moindre battement de cœur. »
Un souffle glacé s'empara de Micha comme si quelqu'un avait ouvert une porte donnant sur l'Antarctique.
« Il... » bafouilla Micha. « Il a peut-être posé quelque part son TPC. Il déteste ces trucs-là, il... »
Des larmes perlaient au coin des yeux de la jeune policière. Pangaïa les regarda briller, souffrant tant de ne pas pouvoir les essuyer. Elle se contenta d'offrir à Micha un regard d'une douceur infinie.
« Je vais le ramener, »
murmura Pangaïa. Les larmes creusaient les quatre couches de fond de teint blanc de Micha.
« Tu vas quoi ?»«
Le ramener, ici. »«
Son TPC ?»«
Non, lui. » »«
S'il porte toujours son TPC au poignet. »
Micha renifla.
« Tu peux pas ? » C'est impossible. On ne peut pas téléporter quelqu'un s'il ne l'a pas décidé. C'est interdit. »
C'est interdit, c'est vrai, répondit calmement Pangaïa. Mais ce n'est pas impossible.
Parce que tu penses Que Babou est mort ?
Les larmes redoublèrent sur les joues de Misha.
Non, s'empressa de préciser Pangaïa. Je peux déplacer un être vivant aussi.
Misha repensait à la constitution de 2058, l'article 4. Nul ne peut être déplacé contre son gré.
Tu pourrais déplacer quelqu'un là où il n'a pas envie d'aller, si tu voulais ?
Pas seulement quelqu'un, avoua Pangaïa. Il y avait presque une lueur de fierté dans le fond de ses yeux.
Je peux déplacer l'humanité entière, 10 milliards d'habitants d'une seule ligne de code, si je veux.
Misha ne répondit pas. Elle se contenta de fixer sur l'écran les coordonnées géographiques du TPC de Babou. 26 degrés, 42 minutes, 0 secondes sud. 15 degrés, 13 minutes, 59 secondes est. Toujours les mêmes. Pas un chiffre, pas même un millionième de millimètre n'avait changé. Elle crispa sa main sur le bras de Pangaïa.
« Ramène-le » supplia-t-elle. « Ramène-le !»
Monastère Taung Kalat, Mompopa, Birmanie. Le corps de Babou reposait au pied des statues de Tajiamin et de Mahaigiri. Le téléporter jusqu'au temple Taung Kalat du Mompopa n'avait pris qu'une seconde. Des grains emportés avec lui du désert du Namib continuaient de s'écouler lentement, de son visage, d'entre ses doigts, d'entre ses jambes. Babou ne saignait pas. Il perdait du sable, comme s'il n'était constitué que de poussière, et que son corps entier allait s'écouler en une flaque de terre claire que le vent ou un coup de balai suffirait à disperser. Artem était penché au-dessus de lui. Il s'était immédiatement téléporté du Kazakhstan. D'un revers de sa main, avec délicatesse, il essuyait le visage de Babou pour que plus aucun grain de sable ne vienne blanchir son visage noir. Pour qu'il soit beau, le plus beau possible. Un roc, ce roc qu'il avait toujours été, tout l'inverse de ces dunes qui grossissaient sous ses pieds. Pour qu'il soit toujours le même colosse indestructible quand Artem irait accompagner son corps à Saint-Louis. Quand il devrait annoncer la foudroyante nouvelle à Astou, à Adama, à Joff et Philo. Babou, son vieux frère, le plus sage d'entre eux, s'était téléporté au-delà de l'univers. Cap paierait. Il se le jurait. Misha se tenait debout derrière lui. Darn Kat, les poils maculés de mascara, était blotti contre son visage, supportant docilement les ongles que sa maîtresse enfonçait dans sa chair. Pangaïa n'avait pu que tourner son siège. Elle observait les trois policiers. L'une debout, l'un accroupi, le dernier allongé. Mort. Étouffé. Son seul pouvoir dans cette histoire, sa seule utilité, avait consisté à déplacer un cadavre. Un travail de croque-mort.
« Aidez-moi, Pangaïa, » demanda doucement Artem. « Aidez-moi. Je dois aller à Saint-Louis. Je dois parler à sa femme. Puis je vous demanderai d'envoyer le corps là-bas, chez lui, sur son lit. »
Pangaïa hocha la tête. Elle pouvait faire ça. Puisqu'aucune autre personne, même la veuve d'un policier mort en service, ne pouvait pénétrer au siège de Pangaïa. Artem hésitait sur les mots qu'il prononcerait devant Astou. Que dire ? Qu'il le vengerait. Que Babou était mort en héros. Qu'elle pouvait être fière. Que ses enfants devaient comprendre l'importance de la dernière mission de leur père. Connerie, tout ça. Ce qui faisait le plus enrager Artem était que Babou était mort pour rien. Victor Kapp s'était envolé. Aucune trace du tueur. Comment un flic aussi doué que Babou pouvait-il être tombé sans avoir déniché le moindre indice, sans le moindre fait d'arme qui rende héroïque son sacrifice ? Le commandant n'arrivait pas à y croire. Il se redressa soudain et s'adressa à Misha.
« Tu l'as fouillé ?»
Misha secoua négativement la tête. Sa question était stupide d'ailleurs. Artem s'était téléporté dans la seconde où le corps de Babou avait été ramené de Kolmanskop. Avec précaution, paraissant demander pardon à son vieux compagnon, Artem se pencha et glissa ses doigts dans les poches de la veste du policier étendu. Rien. Puis dans celle de son pantalon. Toujours rien. Il fit glisser d'un quart le corps sur le côté pour vérifier les poches arrière. Des feuilles de papier dépassaient. Une chaleur enveloppa le cœur du commandant.
Il eut envie de serrer Babou dans ses bras comme s'il était encore un peu vivant, comme s'il venait de leur jouer un dernier tour. Il déplia les feuilles. Micha s'était penché à ses côtés. Pangaya les regardait de loin, sans pouvoir déchiffrer les papiers qu'il dépliait. Trois feuilles colorées, dessinées, annotées à la main sans doute par Victor Kapp.
« Tu as déjà vu ça ?» demanda Micha.
Elle scrutait en plissant les yeux les aplats de bleu et de vert, les courbes ocre, les lignes rouges.
« Ce sont des cartes, » répondit Artem.
« Des cartes anciennes. »
Micha se mordit la lèvre.
Bien entendu, elle était stupide de ne pas y avoir pensé. Elle en avait déjà vu, petite, dans des musées. La première, presque intégralement bleue, représentait l'atoll de Tetamanu.
Khan avait tracé un parcours précis dans la mer, le plus droit possible, mais évitant les différents récifs, fréquents dans le lagon.
La seconde, blanche et rayée de courbes bleues, représentait les glaciers du Cachemire. Le téléphérique de Gulmarg y était indiqué par un simple trait noir. Kapp l'avait entouré d'un cercle rouge, puis avait dessiné précisément la marche à suivre pour atteindre le Kyber Himalayan Resort, un petit carré noir sur la feuille.
Artem déplia la troisième carte. Elle faillit lui glisser des mains. Elle était entièrement verte, seuls quelques cercles sombres émergeaient. Des montagnes, des pics dans la jungle. L'un d'eux était entouré, en rouge lui aussi. Mont Popa. Le nom le plus proche était souligné. Monastère Taungkalat. Ici.
Galileo Nemrod tenait la carte de la jungle birmane entre ses mains, incrédule. Il passait et repassait son doigt sur le cercle rouge tracé au feutre entourant le mont Popa, tout en marmonnant des mots incompréhensibles dans sa barbe. Artem l'avait prévenu aussitôt après avoir déplié la troisième carte.
« Nous avons un problème, président !»
Galileo Nemrod réfléchissait, sa main se crispait sur la feuille de papier, semblant hésiter à la broyer puis la jeter dans le téléportateur de déchets. Depuis qu'il était arrivé quelques minutes à peine, il n'avait pas jeté un regard au corps allongé de Babou. À son échelle, celle de la défense des 10 milliards de terriens, un mort comptait pour rien. C'est ce que pensait Artem, avant qu'il ne réalise qu'il se trompait. Galileo Nemrod s'approcha de Pangaya, posa une main sur son épaule. Un mort. Un seul pouvait compter aux yeux du président, s'il s'agissait de sa fille. Nemrod avait évidemment conscience de ce que cette carte signifiait. Victor Kapp projetait de venir ici, sur le mont Popa, sa troisième destination après l'atoll de Tetamanu et le Kyber Himalayan Resort. De quoi Nemrod avait-il le plus peur? Qu'un terroriste pirate le cœur informatique de la base de données Pangaya ou qu'il s'en prenne à sa fille? Le président se baissa un peu pour que Pangaya puisse, en faisant pivoter son siège, blottir son visage contre son torse. Mon King, jaloux, n'osa pas s'en prendre au vieil homme, mais partit précipitamment se percher à l'autre bout de la pièce, sur la couronne dorée de la statue de Tajiamine. Darn Cat, perché en équilibre au creux des bras de Mintara, plissa les yeux, indifférent. Nemrod prit enfin le temps d'analyser la situation. Laissa traîner pour la première fois son regard sur le corps allongé de Babou, le sable dispersé, les statues des grands nattes birmans, le singe et le chat, la capitaine Micha, pour terminer par Artem. Son regard n'avait plus rien à voir avec celui du grand-père rassurant qu'il offrait à chaque interview télévisée aux citoyens du monde entier. Il était celui dur et cassant d'un dirigeant intransigeant.
« Décidément, commandant Akinis, vous et vos hommes avez toujours un lieu de retard. Cela devient préoccupant. Vous teniez ce journaliste dissident, Lilio de Castro, qui emportait avec lui rien de moins que plusieurs centaines de TPC clandestins pour les porter à une poignée de terroristes parmi les plus dangereux sur cette planète. Et vous le laissez s'échapper. À cheval, commandant Akinis. Si la situation n'était pas aussi dramatique, elle en serait risible. » Tout comme vous avez laissé filer ce tueur, appelons-le Kapp ou Khan, si vous voulez, sur les pentes de l'Himalaya, devant le repère de ce Tan Prao, alors que vous disposiez d'un commando de plus de 30 hommes pour l'appréhender. Si vous l'aviez arrêté, commandant, si vous l'aviez neutralisé, votre collègue serait encore vivant. Nous ne serions pas en train de nous demander si le cerveau de cette planète, garantissant à chacun la liberté de se déplacer, peut être touché. »
Artem baissait la tête docilement. Les reproches n'étaient pas infondés. Il aurait pu sauver Babou. Il «
Président !»
lança soudain Micha. Son visage, habituellement poudré et maquillé, était strié de larmes noires. Il la faisait davantage ressembler à une guerrière aborigène qu'à une fashion victime coréenne.
« Président !» répéta Micha. « Le lieutenant Babou Diop est tombé en mission pour vous apporter cette carte. Il a identifié le tueur, seul. Il a établi avec précision son mode opératoire. Il a découvert sa prochaine cible. Il est mort en martyr et personne n'a jamais fait autant que lui pour protéger l'humanité. Il a donné sa vie. Et vous savez très bien que le commandant Akinis, tout comme ses hommes, tout comme moi, sommes prêts à donner la nôtre. »
Nemrod dévisagea la capitaine coréenne avec admiration. Il se redressa, sans remarquer que derrière lui, Pangaya souriait de l'audace de sa nouvelle amie. Le président adopta une posture solennelle.
« Il y aura un temps pour les honneurs, capitaine Kim, je l'espère. »
Il lissa longuement sa barbe avant de continuer.
« Mais on ne remet les médailles qu'après la guerre. Je vais être tout à fait clair. Commandant Akinis, en ce moment même, des centaines de dissidents politiques se promènent dans le Kazakhstan avec un TPC impossible à identifier au poignet et préparent sans doute une attaque terroriste sans précédent. Vous avez tous les pouvoirs, en coordination avec l'Organisation militaire mondiale pour les arrêter. »
Le président avança d'un pas pour se positionner exactement entre Micha et Pangaya.
« Capitaine Kim, ma fille semble avoir toute confiance en vous. C'est rare et précieux. La sécurité autour du mont Popas sera bien entendu renforcée. La zone sera interdite à toute téléportation sur des dizaines de kilomètres. Chaque antenne sera protégée et des milliers d'hommes surveilleront le site. Aucun homme, même ce Victor Kapp, ne pourra s'introduire au cœur de Pangaya. Néanmoins, vous resterez dans cette pièce pour assurer la sécurité de ma fille au cas où, malgré toutes nos précautions, ce tueur parviendrait tout de même à se glisser jusqu'ici. »
Personne ne répondit. Qu'y avait-il à répondre? Les ordres de Galiléo Nemrod étaient cohérents, logiques, précis. Il se rapprocha de sa fille.
« Il nous reste moins de 24 heures, » conclut le président. « 24 heures avant la nouvelle Babel, c'est-à-dire avant que la quasi-totalité de l'humanité se tasse sur une petite île de l'Atlantique. Aujourd'hui, encore 61% des terriens qui s'expriment sur l'Ecclésia sont favorables à cette commémoration. Mais ils ignorent tout de la menace qui pèse sur eux. Il est bien évident que si, pendant les 24 heures qui viennent, ni Victor Kapp ni ses terroristes assignés n'étaient arrêtés, je devrais en informer l'opinion mondiale et qu'en conséquence, la nouvelle Babel serait immédiatement stoppée. »
Cohérent, logique, précis, pensa Artem. Avant que Pangaya, les yeux levés vers son père, ne prenne la parole pour la première fois.
« N'annule pas. Je contrôlerai tout. S'il te plaît, n'annule pas. »
Nemrod broya la carte de Kapp entre ses doigts alors que son autre main caressait l'épaule de sa fille.
« Ce n'est pas moi qui déciderai d'annuler ou non cette cérémonie. Ni toi. Nous devrons simplement révéler la vérité à l'Ecclésia. Ensuite, ce sera à chacun, chaque terrien, de décider de son destin. »
Nemrod était reparti siéger au Congrès mondial tout en supervisant les travaux de la nouvelle Babel sur Tristan d'Acunha, inaugurer un hôpital à Madagascar, saluer les pompiers de Toronto qui venaient de sauver une forêt dans l'Ontario, bref, aider le monde à tourner rond. Artem et Micha se recueillirent quelques instants, debout devant le corps de Babou, avant que le commandant ne serre longuement son adjointe contre lui. Elle aurait aimé que cette accolade dure une éternité. 3 secondes en réalité. Artem devait se téléporter à Saint-Louis, avec le corps de Babou. En dépit de l'urgence sur tous les fronts, il avait choisi de consacrer le temps qu'il faudrait à Astou et ses enfants. Au Kazakhstan, Nocera et tous ses hommes ratissaient toujours le terrain. Il le tiendrait au courant s'il découvrait une piste.
« Je dois y aller, » fit Artem. « Fais attention à toi, je veux pas te perdre. »
Il disparut. Les bras de Micha n'enlaçaient plus que le vide, un fantôme, un fantasme. La téléportation était la plus cruelle de toutes les inventions. Darn Cat, comme s'il avait compris, sauta dans ses bras. Pangaea et Misha se retrouvaient à nouveau seuls, dans l'ancien temple birman reconverti en siège informatique.
« Il va venir ?»
fit Pangaea d'une voix douce.
« Papa peut bien poster 1000 hommes pour me protéger. Victor Cap va réussir à entrer ici. Tu ne crois pas ?»«
Si. » Inexplicablement, Misha pensait la même chose. Ce type était insaisissable, un fantôme lui aussi. Aucune barrière de sécurité ne lui résisterait.
« Je ne pourrais pas me défendre, » continua Pangaea.
« Toi seul pourras me protéger. » Les doigts de l'informaticienne s'agitaient, non pas de leur mouvement habituel et perpétuel, mais en désordre, saisi d'un tremblement. D'ailleurs, son corps entier semblait secoué de spasmes, qu'elle avait vraisemblablement retenus devant son père et qu'elle ne parvenait plus à maîtriser.
« Je n'ai que toi, » répéta Pangaea.
Le regard de la capitaine soutint de longues secondes celui de la jeune femme rivée à son siège. Un regard brûlant, implorant. Puis glissa sur la boîte de cachet bleu dissimulée derrière deux tortues.
« Je te protégerai, »
affirma Misha en caressant doucement son épaule.
« Ne crains rien. »
Elle jeta un coup d'œil panoramique sur la pièce. Mon King, Darn Cat, les 37 nattes birmans. Malgré toute son assurance, Misha savait que si Cap parvenait à pénétrer jusqu'ici, elle n'aurait aucune chance. Ce tueur avait toujours eu un coup d'avance. Il avait piégé Babou, un flic bien plus expérimenté qu'elle. Elle devait trouver une idée, rusée. L'attendre sur son terrain, celui de la téléportation, c'était s'offrir à lui mains et pieds liés. Le regard de la capitaine coréenne s'attarda sur les visages de porcelaine des statues royales birmanes. Elle ignorait par quel prodige Cap pourrait s'introduire jusqu'ici, alors que la zone était tabou et que des centaines de gardes surveillaient l'entrée. Mais elle devait anticiper la possibilité qu'il y parvienne et imaginer un moyen de dérégler son plan si parfaitement agencé, le surprendre. Les statues birmanes, leurs habits de prince et de princesse, leurs regards fixes, leurs traits dessinés au pinceau. Une idée folle venait de germer. Le terrain de jeu de Cannes était celui de l'hypermobilité, insaisissable partout et nulle part à la fois. Jamais il ne se douterait qu'on puisse l'attendre sur le terrain inverse, celui de l'immobilité.